Bienvenue dans vous ce soir.
Je vous enregistre.
Et je remercie surtout en notre nom à tous le docteur Jean-Charles Pascal, ici présent, psychiatre des hôpitaux, tu me corriges, hein, ancien chef de service, expert honoraire près la cour d'appel de Versailles, et par ailleurs très au fait de la psychanalyse lacanienne.
Je me trompe. Tu dis.
Alors, je te remercie d'avoir répondu à notre invitation à nous parler de la responsabilité du sujet en matière médico-légale. Pour introduire cette soirée de travail, je cite juste Lacan dans sa conférence à Yale en 1975. Qu'est-ce qu'il dit ? Jurer de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, c'est justement ce qui ne sera pas dit. Alors, je passe la parole au docteur Pascal qui nous propose quelques réflexions sur l'histoire et la clinique de l'irresponsabilité dans le cadre médico-légal. À toi, Jean-Charles.
Merci, chère présidente, et merci à vous tous d'être là si nombreux. Merci à toi, Agnès, d'avoir été le go-between, le messager, donc, qui fait que je suis ici parmi vous. Alors, bon, c'est une question que vous connaissez, hein, la question de la responsabilité, mais qui mérite peut-être qu'on s'y arrête pendant quelques deux ou trois quarts d'heure, j'espère, peut-être.
Oui, tout, hein.
Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est d'avoir un rappel historique de cette question de la responsabilité, parce que c'est très ancien. Le fait que ça s'est quand même modifié, que nous sommes dans une période de modification sur cette problématique, et puis quelques cas cliniques qui peuvent éclairer, ou tout au moins montrer combien c'est parfois facile et combien c'est parfois très difficile, voire impossible, de déterminer cette question. Alors, sur le plan historique, bon, un rappel que vous connaissez, au fond, on est sur la même perspective que le droit romain. C'est dans la première fois qu'on voit inscrit dans le droit la question de l'irresponsabilité donc des aliénés, c'est dans le droit romain. Et au fond, depuis, il y a une reprise modernisée assez tôt, hein, dans le Moyen-Âge. Donc la conception de l'irresponsabilité a été codifiée, et puis jusqu'à l'ère moderne, puisque vous savez que donc, c'est en 1810 que dans le droit français, donc à la fin du Premier Empire, la question de l'irresponsabilité a été codifiée, le fameux article 64 du Code pénal que tout à l'heure j'évoquerai. Alors probablement que les Romains ont repris des traditions très ancestrales qui remontent à la nuit des temps. On ne trouve pas de codification de l'irresponsabilité dans le Code d'Hammurabi, par exemple. Mais là, effectivement, les Romains, eux, l'ont codifié. Première, il y aura deux lectures. Première lecture, qui vient d'un article qu'avait écrit Yves Emery dans la formation psychiatrique, il y a quelques années. Donc, il avait fait une étude donc, sur justement la question entre le droit romain et le droit canonique de l'irresponsabilité. Donc, à Rome, depuis l'adoption de la loi Cornelia, durant le dernier siècle de la République, nul fait ne peut entraîner une peine s'il n'a été commis par dol ou par faute. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une peine, il faut qu'il y ait une tromperie ou une faute. S'il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de peine. Et on va voir que l'aliéné est considéré comme ne pouvant pas avoir accès à la tromperie et à la faute. L'agent doit pour cela avoir été conscient de son acte. Le crime est engagé, indique un texte du Code Justinien, que si la volonté coupable survient. Les Romains ne punissent en effet l'auteur d'un délit que s'il dispose d'une capacité dolosive, alors même que le concept général de non-imputabilité n'existe pas dans le droit romain, l'absence de capacité dolosive suffit parfois à déclarer l'agent irresponsable, en particulier s'il s'agit de fous ou d'impubères. Ulpien, commentant un texte de Pegasus, établit un parallèle entre le dommage causé par un fou et les dégâts provoqués par un quadrupède ou par une tuile tombant d'un toit. Alors, ça me choque, mais en fait, on comprend à travers ça tout le mouvement de lutte qu'il y a eu. Il y a beaucoup d'aliénistes et d'experts qui ont lutté contre l'irresponsabilité, puisque justement, être irresponsable, c'est être un objet. Et donc, considérant que pour réintégrer l'humaine condition, eh ben, il faut être responsable. Donc ça a été un débat très vif. Hein. Il y a certains d'entre vous qui se souviennent d'un confrère, Rappard, qui exerçait à Étampes, qui a passé sa vie sur ce sujet et qui a été brancardé partout, et, parce que lui, il estimait que l'irresponsabilité était le dernier outrage qu'on pouvait faire aux malades mentaux. Donc, hein, une tuile qui tombe d'un toit ou un quadrupède, donc l'aliéné, il est dans le même registre. Il est irresponsable. C'est un objet. Donc, Aurel affirme dans un rescrit relatif à un fou meurtrier de sa propre mère que le furieux trouve suffisamment être puni en raison de son état de santé. Donc, la maladie est suffisante pour exonérer le malade. Donc, voilà où on en est dans le droit romain. Et puis, on se souvient, alors, tout à l'heure ça va être abordé, mais il y a un exemple, il y a un exemple qu'on connaît tous, c'est Althusser, hein, qui après, donc le père de sa femme a bénéficié, dans des conditions un peu complexes d'ailleurs, de l'article 64 du Code pénal, et qui en a beaucoup voulu aux juges et aux psychiatres, donc de l'avoir déclaré comme aliéné, puisqu'il disait exactement ça, que ça l'avait mis dans une position de...
Donc aliéné égale irresponsable.
Alors, on va voir, parce que c'est déjà un petit peu... Oui, enfin, dans le droit français, oui. Et lui, donc, ne souhaitait pas que ce soit allié. Et il estimait que ce bénéfice était un bénéfice qui, en fait, lui retirait même l'état d'être humain. Je citais aussi dans mon compte que Kant, qui était un grand hypochondriaque, on le sait, il s'est beaucoup intéressé à la folie. Il a d'ailleurs, son premier texte paraît en 1764. C'est un essai sur les maladies de la tête. Et il dénie à la médecine et à la justice toute compétence pour traiter de la question de la responsabilité. Il dit que seul le philosophe est en capacité de pouvoir décider. Alors ça m'a fait souvenir effectivement cette incapacité de la médecine, de la psychiatrie, disons, et de la justice, de pouvoir délibérer de ce que c'est que responsable ou pas. Ça m'a fait penser à un film italien, une trentaine d'années. J'ai cherché le titre, mais je ne l'ai plus retrouvé. C'est pas Divorce à l'italienne, il y a Mastroianni dedans, mais peu importe. Donc dans ce film, on apprend qu'en Italie, jusque dans les années 70, quand un aliéné commettait un crime, il pouvait bénéficier de ce qu'ils appelaient la semi. Alors la semi, ça veut dire qu'il avait un temps de traitement, donc par exemple, commet un crime, 10 ans d'asile, et considéré comme ayant été guéri après ces 10 ans d'asile, on lui collait 10 ans de prison. Ça s'appelle un semi. Alors c'est une logique...
C'est moitié-moitié.
Moitié-moitié. Et c'était donc, alors, totalement absurde, évidemment, d'avoir pendant des 10 ans, l'aliéné ne guérissait pas tout le temps. Oui, mais c'était considéré comme une logique. Comme on ne peut pas condamner un aliéné, on désaliène l'aliéné, et hop, on lui colle 10 ans, et là, tout le monde est content. Alors, ça, c'est une preuve, effectivement, que ni le juge ni le psychiatre sont très à l'aise par rapport à cette question. Alors, on revient un petit peu... Donc, c'était encore valable en 70, hein, donc il y a 45 ans, hein, on n'est pas là dans l'antiquité, hein, c'est pas vieux. Mais ça témoigne bien de l'ambivalence et de la difficulté du sujet. Alors, dès le XIIe siècle, parce qu'on va quitter les Romains, on va monter au XIIe siècle, les théologiens, les canonistes, prennent en compte l'élément intentionnel. Pour qu'il y ait une intention, il faut qu'il y ait une délibération, un libre arbitre. Si je n'ai pas de arbitre, je n'ai pas d'intention. Donc, dans l'appréciation de la responsabilité, ils sont catégoriques. Hein, dès le XIIe siècle, hein, on est 1100 et au-dessus, hein, c'est le haut Moyen-Âge. Donc, l'imputabilité matérielle est nécessaire, d'accord ? Mais elle ne suffit pas. L'auteur doit être moralement responsable de l'acte ou personne n'est tenu pour coupable à moins que la volonté s'écarte du chemin. C'est joliment dit, hein, la volonté s'écarte du chemin. Donc, alors, deux autres contributions, une antérieure, saint Augustin, hein, le véritable théoricien du bien et du mal. Il n'y a pas d'acte pécaminieux s'il n'a pas été volontaire. Hein, oui. Et puis, Beaumanoir, au XIIIe siècle, les forcenés, Alors, forcené, c'est en dehors du sens. Forcené, en dehors du sens. Les insensés ne sont pas justiciables dans la manière des autres parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il y a un accord général pour exclure l'insensé du débat judiciaire et de ses conséquences, sauf les transgressions religieuses, dont on est encore brûlé, la dernière fois où on est brûlé, pour des raisons d'indistinction entre la maladie et le crime, c'est en 1749. Et les transgressions religieuses et le régicide. Là, on ne demande pas que le sujet soit aliéné ou pas, il est écartelé et brûlé. Parce que là, il transgresse au-delà de ce que l'on peut admettre. Alors, quelques mots de Jean Vierre. Alors, Jean Vierre est quelqu'un qui m'est très cher parce que, il y a quelques années, je devais donner un nom au centre médico-psychologique dont je m'occupais. Je redoutais qu'on lui donne le nom d'un conseiller général qui était très aimé et l'idée planait déjà. Je ne voulais pas lui donner un nom d'un grand aliéniste ou d'un grand psychanalyste, ni l'appeler, je ne sais pas quoi, les coquelicots ou un truc. Et je me suis dit, il faut que je trouve un nom où la famille ne se plaigne pas, parce qu'il y a des familles qui ne veulent pas qu'on donne le nom, où il n'y a pas de problème, et j'avais entendu parler de Jean Vierre. Jean Vierre ou Virus, puisqu'il c'est un médecin du milieu du XVIe siècle qui est né dans les Flandres. Il est né en 1515 et médecin, il va exercer dans l'Empire, dans cette zone intermédiaire entre la France et l'Empire austro-hongrois. Il va d'abord s'occuper des maladies de la femme, d'ailleurs, au début, et puis très rapidement, il va s'intéresser à la question de la sorcellerie. Il fait son premier ouvrage en 1548, où il critique déjà la façon dont on globalise au niveau de la sorcellerie des choses qui ne lui paraissent pas avoir affaire au diable. Et puis son grand œuvre, c'est en 1563, ça paraît à Bâle, c'est traduit en français en 1567, ça m'a frappé, ça c'est 14 ans, donc ça va vite. Hein. Enfin, au Moyen-Âge, c'est déjà le début de la Renaissance, mais ça va vite. Hein. On traduit un texte parce que les gens s'y intéressent, donc il y a un débat autour. Et son grand livre, c'est « De l'imposture et tromperie des diables ». Donc là, et d'ailleurs, il risque sa peau. Hein. On sait qu'à l'époque, pour Jean Vierre, ça a chauffé, hein, parce qu'il y avait certains qui disaient « on va quand même le brûler un peu ». Et puis, parce qu'il dit des choses étonnantes. Hein. Et il y défend sa position donc, très courageusement. Je le cite, « La sorcière croit voir le diable, mais ce n'est qu'illusion, comme celle des mélancoliques et des rêveurs. » Et donc, les historiens savent pourquoi ils s'intéressent à ça, et on sait pourquoi il a eu cette idée, parce qu'il était médecin du duc de Clèves, et le duc de Clèves était médico-dépressif, donc avec des séquences assez serrées, et il était soit maniaque, disons des folies, soit mélancolique et s'accusant de tous les maux du monde. Et Jean Vierre, dans les procès de sorcellerie, s'aperçoit que ces malheureuses sorcières, ben souvent, c'est les mêmes, elles disent les mêmes choses que son duc. Et c'est là, ça commence là, donc il fait ce lien, etc. Alors, on le considère, donc succès énorme de ce livre, il a eu des suites, on le considère effectivement comme étant le premier expert psychiatrique. Les historiens ont en fait critiqué un peu ça parce qu'il semble qu'en fait, notre Jean Vierre était, on va l'admettre comme étant un très grand homme, mais il était surtout intéressé de savoir qui étaient vraiment les vraies sorcières, plus que l'exonération de la peine de Mme Manteau. Alors, bon, on va lui faire crédit de parler, mais enfin, voilà.
C'est histoire.
Oui, il y a eu des controverses. Donc voilà pourquoi Jean Vierre, et quand même, donc, c'est lui qui ouvre cette question et qui commence à débattre donc, de ce qui pourrait être responsabilité ou pas. Et quand même, il évite beaucoup de supplices, parce que je crois que la dernière sorcière, entre guillemets, brûlée, c'est très tard, hein, c'est 1749. Donc jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on a encore brûlé une sorcière. Hein. Donc, voilà. Alors, bon, le temps passe. Il faut réduire un petit peu les choses. Donc, on aborde le 18e siècle. D'abord, bon, on sait que c'est 1838, c'est la loi qui organise les placements. Il n'y a plus de lettres de cachet depuis 40 ans, mais on ne sait pas quoi faire avec les aliénés. La loi de 38 va organiser ce que nous avons connu. On a ici, on est certain, avoir travaillé avec cette loi qui, dès 1839, devait être révisée. En fait, elle a été révisée que 160 ans après, pour au fond très peu de modifications. Rien d'essentiel, quoi. Et par contre, l'irresponsabilité pénale, dans le code pénal, c'est 1810, c'est assez tôt. Et ni crime ni délit, c'est le texte même de la Chambre des Pairs. Alors, si vous avez le temps, ça a circulé. Il y a un laboratoire qui autrefois avait distribué le texte, les débats de la Chambre des Pairs. Niveau exceptionnel, très supérieur au débat qu'on a pu voir à la Chambre des députés et au Sénat dernièrement. Vraiment des débats de très haut niveau. Et donc on dit ni crime ni délit si état de démence au moment des faits ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Ça reste actuellement, c'est actuel ça encore. C'est d'autres mots, mais ça reste. Avec un problème, c'est qu'à l'époque, quand il y avait l'application de l'article 64 du Code pénal, c'était un non-lieu. C'est-à-dire que le juge prononçait un non-lieu, il n'y avait plus rien. Il n'y avait ni crime ni délit. Et les familles des victimes recevaient un courrier de justice, l'instruction est close, il n'y a eu ni crime ni délit. Ah, le problème, c'est qu'il y avait un ou deux morts et que les gens étaient très mécontents. Alors finalement, il a été trouvé est-ce que c'est une bonne solution, qui est la chambre de l'instruction. Donc il y a, même pour les aliénés, il y a un petit débat judiciaire avec avocat, avec présence du malade, c'est-à-dire qu'il a été déclaré par une ou deux expertises irresponsables. Donc, il passe devant un procureur et il y a un mini-procès, la famille peut être présente et il semble que ça apaise. Ça a pu apaiser des familles parce que, voilà, donc ils sont là, ils savent ce qui se passe. Le problème, c'est que le patient est présent, souvent totalement en dehors de ce qui se passe, ou il va beaucoup mieux parce qu'il a été traité, c'est en général un an après, et donc on l'amène à revivre des éléments hyper traumatiques et que ça ne se passe pas toujours très bien. Et puis, c'est une façon aussi, parfois pour les procureurs, de charger un peu la barre, puisque... en France, c'est assez difficile. Enfin, il y a toujours une réticence à reconnaître l'aliénation. Hein. Premier pays d'Europe pour le nombre de malades mentaux condamnés. Hein. Et de loin. Hein. En prison. Hein. Et parce que, je vais donner un ou deux exemples, parce que c'est très mal accepté. Et puis, il y a aussi cette question de la présence de l'aliéné. J'ai fait partie d'un collège d'experts pour ce jeune criminel qui avait décapité, tué deux infirmières, dont décapité une infirmière, une grande schizophrène, considéré comme uniquement altéré par un expert local. Il y avait une telle pression de la presse localement, etc., que l'irresponsabilité était considérée comme étant échappée à la justice, échappée à la peine. Donc, il y a eu une description des faits, il y a eu des photos. Toutes les familles étaient là avec des photos des infirmières qui avaient été assassinées. Donc, un climat absolument d'enfer, quoi. Hein. Et ce malheureux garçon a entendu tout sur lui, même au-delà de ce qu'il pouvait probablement entendre. Donc c'est en même temps, je crois qu'il le faut, mais en même temps, si c'est mal manié, s'il y a un président de la chambre d'instruction qui est un humaniste, ça se passe bien. Si c'est un imbécile... Et il y en a, ça se passe très mal. Bon. Alors, deuxième et dernière lecture. Bon, ben, j'en viens à... Donc, on arrive au 19e siècle. Je ne sais pas si vous avez tous lu ce petit livre, le livre de Laure Murat, La maison du docteur Blanche. C'est un livre absolument passionnant. ça décrit tout ce qui, toute la psychiatrie de cette époque-là. Docteur Blanche, c'est une famille qui avait des cliniques et qui, sans le savoir, a inventé la psychothérapie institutionnelle. Tous les patients dînent ensemble avec les soignants le soir. Alors ces patients, c'est pas n'importe qui, hein. C'est Théo Van Gogh, c'est Nerval, c'est Guy de Maupassant, effectivement. Voilà, ça donne un...
Qui soigne qui ?
Oui, c'est pas... Voilà, donc il n'est pas... c'est assez particulier. Mais le docteur Blanche, donc, il y a Gounod aussi, Gounod qui était un grand phasmaniaque. Alors le docteur Blanche, lui, à cette époque, quand les juges veulent exonérer quelqu'un de son crime, on fait appel au docteur Blanche. Parce que le docteur Blanche est un grand humaniste. Pour lui, il faut être fou pour tuer. Même dans des crimes crapuleux, je veux dire, pas uniquement le crime passionnel, etc. Donc le docteur Blanche, il exonère, ce qui fait que... il est connu pour... Alors, en 1875, il écrit... Tout le monde s'accorde maintenant à proclamer la sagesse de la loi. La loi, c'est la loi de 1810, hein, l'adjoint. Elle a plus d'un demi-siècle d'efficacité. Qui en empruntant à la vieille terminologie juridique l'expression alors vague et générale de démence, a pris tâche de ne rien spécifier afin de ne point circonscrire les appréciations du juge dans le cercle étroit et infranchissable d'une définition limitative. Alors c'est un peu compliqué, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au fond, c'était bien l'état de démence. C'est fini, hein, on n'utilise plus l'état de démence, parce que c'était large. Oui. On pouvait y mettre un peu ce qu'on voulait, ou extraire de la démence ce qu'on voulait. Donc c'était laisser les appréciations plus souples. Par démence, disent messieurs Adolphe Chauveau et Faustin Elie, on doit entendre, puisqu'aucun texte n'en a restreint le sens, toutes les maladies de l'intelligence, l'idiotisme et la démence proprement dite, la manie délirante et la manie sans délire, c'est-à-dire la manie affective, trouble de l'humeur, hein, même partielle. Toutes les variétés de l'affection mentale, quelles que soient les dominations que l'on applique à la science, quelques classifications qu'elles aient reçues, revêtent la puissance de l'excuse et justifient l'accusé pourvu que leur influence sur la perpétration de l'acte puisse être présumé. Donc c'est très bien dit dans ce beau français de la moitié du 19e siècle. Alors voilà, le docteur Blanche, lui, à l'époque, on crée ce que, quand il y a un crime dont on ne voit pas vraiment la raison, mais dont on, avec pas de trouble psychiatrique évident, alors on crée le concept de monomanie homicide. C'est-à-dire que le meurtre lui-même, et ça c'est Blanche qui est derrière ça, le meurtre lui-même est anormal. Donc monomanie homicide, donc irresponsable, puisque c'est un monomanie.
Récidiviste.
Alors, ça, je ne pense pas ce que Pierre dit, mais certains peut-être, oui. Certains.
Monomanie.
Ben oui, monomanie, c'est son truc, c'est
situé.
D'ailleurs, ça n'existe plus dans la Pégan, mais il y a parfois certains, tout à l'heure, peut-être je vous le dirai rapidement, mais il y a certains meurtres isolés, sans aucun délire autour, sans aucune participation, dont le seul meurtre, c'est évidemment la folie psychotique, on peut dire entre guillemets, évident. Hein. Ouais. Tout à l'heure, je donnerai un exemple. Mais, alors, on n'utilise plus mon homme.
On appelle ça gratuit.
Gratuit ou premier acte homicide d'une pathologie qui va se décompenser, etc. Ouais. Le problème, c'est qu'elle ne se décompense pas toujours. Ouais. On est devant un acte isolé, un crime abominable, qui est un crime fou, ça c'est vrai. Ouais. Mais où est la folie, si ce n'est dans le crime? Donc voilà, donc on va y venir. On va y venir rapidement, mais c'est compliqué. Donc voilà. Alors, dans le nouveau code de procédure pénale, modifié en 2014, bon, je l'ai mis là, mais on a pu le dire après. Alors tout à l'heure, vous allez voir, enfin, tout de suite, vous allez voir. Donc maintenant, il y a abolition ou altération du discernement. On ne parle plus d'état de démence. C'est le discernement. Alors, c'est pareil. Hein. C'est en fait, la question véritable, c'est ce que posaient les Romains, c'est le libre arbitre. Est-ce que le sujet peut décider ou non de commettre l'acte ou il ne peut pas, hein? Est-ce qu'il a des hallucinations de contrainte, si tu ne tues pas, le diable te transformera, je ne sais pas quoi, en animal. Est-ce qu'il a un petit espace de liberté ou pas? Donc ça, c'est le libre-arbitre. Pas de libre-arbitre, irresponsabilité. Le discernement, c'est plus compliqué, le discernement. Donc, mais on s'est aperçu, donc, l'altération permet à des malades mentaux qui commettent un crime ou un délit grave de bénéficier de l'altération, parce qu'il y en a certains, vous verrez, qui sont malades, mais pas malades dans l'acte. Alors, c'est-à-dire, je prends un exemple que j'ai en tête, un patient schizophrène traité sous l'éponex, vraiment avec un passé psychiatrique sévère, participe à un braquage d'une banque de façon tout à fait efficace. C'est lui qui fait les relevés horaires, les passages des convoyeurs de fonds. Donc, il met un casque pour être reconnu. Et il fait le P avec sa moto, etc. Donc, voilà. Alors, prémédité, efficace. Alors, malade mental, oui. Bah, abolition, pas sûr. Pas sûr que la maladie, du discernement, pas sûr que la maladie soit à l'origine. Responsabilité totale, peut-être pas quand même. Peut-être que sa maladie a altéré son discernement. On est sur du compliqué et du subtil. Mais alors, on s'est aperçu assez rapidement dans les années 2005 que contrairement à ce que le législateur voulait, on pensait que altération, c'était diminution de la peine. Les jurys populaires augmentaient la peine.
Donc,
en 2004, la loi codifie, et quand quelqu'un bénéficie de l'altération, généralement, il y a un tiers de moins de la peine.
C'est 2014.
C'est 2014, ça date. C'est très récent. D'accord. Et perpétuité devient 30 ans.
Oui.
Voilà. Donc, parce que les jurys populaires, qui sont maintenant vraiment populaires, c'est plus les jurys d'autrefois tirés au sort parmi les notables, maître d'école, l'avocat, le notaire, médecin, le pharmacien, etc., le psychologue, bon, ça. Bon. Maintenant, c'est un jury populaire, il faut voir. Hein. Ouais. Jury populaire, il est populaire. Et jury populaire, il a la main lourde. Il a la main lourde. Et le fait d'être malade mental, ça ne l'exonère pas. Au contraire, les gens disent, il sera mieux en prison. En prison, au moins, on est sûr.
Voilà.
Erreur, parce qu'on sort plus vite de prison, souvent, que de l'UMD. Enfin, les gens ne savent pas. Bon. Donc, voilà l'affaire. Alors, quelles sont les questions posées à l'expert en 2017? Je vais vous lire une mission, et puis on va la commenter rapidement. Alors, il y a l'examen psychiatrique. J'ai même pris l'exemple d'examen médico-psychologique, qui est parfois demandé, mais bon, voir tout de suite les choses. Alors, l'examen psychiatrique, d'abord, examiner l'intéressé, et dire s'il est en mesure de comprendre les choses et de répondre aux questions. C'est bizarre comme question, mais maintenant, elle est posée systématiquement. Alors, voilà, bon. Ensuite, présente-t-il une maladie mentale? Alors, oui ou non? C'est non, c'est trop souvent non. C'est parfois oui. Laquelle? Schizophrénie, délirante, paranoïde, paranoïaque... troubles de l'humeur, manie délirante, etc. Bon. Les faits pour lesquels il est mis en examen sont-ils en rapport avec la maladie? Première question. On l'a vu tout à l'heure, pas toujours.
C'est ça.
Pas toujours. La maladie peut éclairer la personnalité, peut faciliter un acte, mais c'est pas automatique. Donc là, il y a déjà un débat qui permet d'éclairer le juge. Ensuite, la question qui est posée, c'est abolition ou altération ou rien. Ensuite, on demande à l'expert, est-ce que l'intéressé a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister au sens du 122.2? C'est très ancien, ça. Ça avait disparu, puis ça réapparaît. Très ancien, c'est, au fond, on ne peut pas responsabiliser quelqu'un qui a agi sous la menace d'une arme. Ou sous « si vous ne faites pas ça, je tue vos enfants », par exemple. Bon. Ne sont pas concernées par là toutes les prises de toxiques. En cadre de le toxique, qui pourtant modifie complètement le champ de conscience et le discernement, mais le toxique n'est pas pris en compte, et donc qu'on soit ivre, ou qu'on soit sous cocaïne, ou sous machin, donc ça n'est pas...
Irresponsable.
Hein. Alors, il y a que quelques cas qui ont pu être plaidés de façon différente, c'est si c'est la première fois que le sujet est en contact avec une drogue et qu'il ne sait pas les effets possibles. Voilà, hein. Donc une ivresse, la première ivresse massive et un acte homicide. Le sujet ne savait pas que quand il était sous, il était désinhibé sur le plan pulsionnel. C'est très rarement plaidé, mais ça c'est vu. En général, ils sont condamnés. Donc, est-ce que l'état mental de l'intéressé risque de compromettre l'ordre public? Parce qu'à ce moment-là, si on répond oui, si on répond il est aliéné, si on répond oui, c'est soin psychiatrique sous contrainte. Donc, ensuite, est-il dangereux au sens psychiatrique du terme? Alors, ça on sait que... Voilà, bon. Et ensuite, est-il dangereux sur le plan criminologique, qui est beaucoup plus compliqué? Et je dis à moi, je vous le dis maintenant, qu'en fait, cette question de la dangerosité est de plus en plus importante dans au niveau de la justice. À la limite, on pourrait dire que si on va sur cette dérive, dans 20 ans, la question de la responsabilité ou de l'irresponsabilité sera presque secondaire. Et ce qui importera, c'est dangereux ou pas. Comment dire que quelqu'un est dangereux ou pas? Un auteur danois qui a dit...
C'est un peu la loi 38, quand même.
Oui, mais dangereux psychiatrique.
Oui.
Là, c'est criminologique.
Oui, c'est ça.
Et les criminologues sont des gens qui, en général, répondent sur des tablettes. Célibataire, toxicomane... mais célibataire est un des 5 éléments de dangerosité potentielle. Je vous le dis, il faut le savoir. A déjà commis un crime, bien sûr, etc.
Ça veut dire qu'il n'y a personne pour alerter.
Je vous l'aurais dit, hein, enfin, disons, oui, vivant seul, peut-être. On peut aller jusqu'à vivant seul, allez. Donc, au fond, qu'est-ce qu'on peut répondre quand on veut faire les choix? On peut dire il y a ou il n'y a pas d'éléments cliniques ou anamnestiques en faveur d'une particulière dangerosité. Moi, c'est mes réponses.
Oui.
Il y a ou il n'y a pas. Si c'est son 5e passage à l'acte gravissime, c'est quand même, on sait que le 6e est probable. Et si cliniquement il a un délire de persécution centré sur quelqu'un de sa famille, donc voilà un élément clinique et un élément anamnestique en faveur d'une... S'il n'y a pas ça, moi je crois qu'il ne faut jamais aller plus loin, puisque quelqu'un a dit que l'expert psychiatre, dans cette prédiction, il a la même chance d'avoir raison que quand on tire avec pile ou face. Bon. Alors voilà, donc, et puis ensuite, s'il y a eu des troubles, est-ce qu'il y a des propositions thérapeutiques à faire? Et en cas autrefois de crimes sexuels, mais maintenant en cas de tous les crimes avec un élément de surviolence, de particulière agressivité ou autre, il y a l'injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire que le juge peut, dans la peine, dire vous aurez 10 ans de suivi, et si vous ne faites pas ce que je vous dis...
L'article 69, celui-là ?
Non, c'est le... Je ne sais pas.
On a vu arriver au dispensaire qui avait injonction de soins et qui ne demandait rien.
Non, il y a deux choses qui peuvent arriver au dispensaire. Il y a l'obligation de soins, qui est autre chose. L'obligation de soins, c'est le juge, un homme qui est mis en examen pour des faits de viol, donc avec... pour le juge, suffisamment d'éléments qui laissent à penser qu'il y a un sérieux problème de maîtrise pulsionnelle, avant même qu'il y ait le jugement, alors qu'étant mis en examen, il est uniquement mis en examen, peut l'obliger à des soins. C'est l'obligation de soins.
Ah, c'est ça.
Et s'il ne le fait pas, il va en prison. C'est après le jugement, il y a l'injonction de soins dans le cadre d'une décision socio-judiciaire. Là, c'est... Voilà, il y a une peine. C'est un peu la semi, hein. Il y a une peine et en même temps vous avez 5 ans de suivi en CMP. Si vous ne venez pas tous les mois avec votre certificat, retour en prison. Voilà. Donc c'est ça. Je vais rapidement pour l'examen médico-psychologique, c'est le niveau intellectuel, bien sûr, parce que le déficit intellectuel altère ou abolit le discernement, évidemment. Autrefois, il y avait même trop intelligent était considéré comme anormal. Il le dit, Blanche, que quelqu'un avec une intelligence exceptionnelle est considéré au fond l'altération. Et puis, en médicopsie, on demande aussi est-ce qu'il y a des éléments familiaux, des éléments biographiques qui ont pu favoriser les troubles, affectivité, émotivité, disposition de la personnalité, et tout ce qu'on peut amener au juge pour amener la compréhension du mobile des faits. Franchement, là, on est sur des zones extrêmement complexes, parce que, en tant que psychanalyste, vous savez qu'il faut tellement de temps pour que les gens disent quelque chose d'intime. Donc c'est pas en une heure qu'on va, on va déplier une personnalité.
C'est une sacrée responsabilité.
Ouais. Oui, mais franchement, là, elle est souvent évitée. Autant c'est... La psychiatrie, c'est facile.
Oui.
Facile. Enfin, c'est parfois très difficile, mais en général, c'est facile. Mais sur le médico-psy, moi, je ne le fais pas parce que je trouve que je suis assez réticent. Pas aussi réticent aussi que quand... où des psychologues sont nommés, font un TAT, un Rorschach, et déplient ensuite des conséquences qui sont vécues par les juges comme étant objectives.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire Rorschach avec des manifestations pulsionnelles, agressives et archaïques, pan. Ça, c'est le juge, lui, qui ne connaît pas, il se dit c'est la vérité, ça a été, c'est des tests, hein, c'est pas des. Donc, il faut plutôt se tenir à l'abri. Alors, oui, quelques... On a combien de temps encore?
Il y a un peu
de temps. Oui, alors quelques cas cliniques. Rapidement. Voilà. Un débat, pas d'accord. Alors, c'est un monsieur délirant, schizophrène, qui a déjà eu des violences familiales, qui 2 ans après, alors que sa famille l'a mis à la porte et il n'y a plus aucun lien, va donner des coups de hachoir dans le dos de son père, en public, son père le voit, va nier les faits, et donc il est expertisé. Donc c'est un collège, on est deux, bon, c'est évidemment un grand aliéné, il pense que son père le manipule, que son père a... est le patron d'un trafic de drogue, etc. Donc, mon père est un épicier. Donc, je dis que c'est un grand délire, etc. Donc, nous abolissons le discernement. Il a commis vraiment plein délire. Totalement irresponsable avec son père. Mais un collège précédent l'avait altéré. Comme d'ailleurs... Le malheureux qui avait tué 2 infirmières, pourquoi il y a eu collège et sur-collège, et ils ont fait appel à un collège parisien, c'est parce que sur place, le premier expert, sous la pression médiatique, parce que c'était le grand drame à Pau, ça a été ça, c'est-à-dire 2 infirmières égorgées dans un...
c'est plus que ça, décapité.
Oui, décapité parce qu'il pensait que c'était un serpent, qu'elle était devenue un serpent. Donc l'aliénation était évidente, mais... Premier expert sous la pression médiatique n'a pas osé abolir et a dit altérer. Donc après, ça a eu un enchaînement, donc ça a duré 1 an cette affaire. Bon, là, c'est pas le même niveau de drame, mais le premier expert dit oui, t'as un malade mental, mais enfin quand même. Alors son argument, c'est oui, mais enfin, quand il nie les faits, alors que les faits sont évidents, tout le monde l'a vu, le père l'a reconnu, c'est comme si. Quand il nie les faits, Il les nie avec habileté. Par exemple, les policiers vont lui poser une question. Ben, si c'est pas vous, comment ça se fait que votre téléphone borne juste à côté du crime ? Eh ben, il répond un truc assez astucieux. Et comme toujours, comme dans le milieu judiciaire, on pense qu'un aliéné est un imbécile. Donc le fait qu'il soit assez habile, on dit mais non.
Enfin, il a posé la tête de l'infirmière sur la télé.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est un crime épouvantable. Mais le...
Ça veut dire que la tête le regarde.
Mais rappelez-vous que cette histoire de ce gosse qui a été tué à la fin d'un bal par un couple, lui est un grand schizophrène et elle était une paraphrène. Il faisait un truc, un rite satanique, enfin, du grand fou. Ouais, et bien, ils ont le procureur. À argumenter contre l'abolition en disant « Oui, mais regardez, vous dites qu'ils sont malades, mais ils ont organisé de façon assez subtile leur fuite. » Donc, il y a toujours cette idée « Si tu es aliéné, tu dois attendre les bras ballants. » Et voilà. Donc, ils ont du mal à percevoir cette affaire. Donc, voilà. Alors, donc, voilà un grand débat. Donc, chambre d'instruction. chambre de l'instruction, donc le gars présent va beaucoup mieux. Il est sous les pillons depuis, depuis un an et demi.
Il est devant le, alors, il est, journaux.
Oui, il est, alors il est là, il va écouter tout ça, etc. Et je pense que, je ne sais pas si vraiment, mais je pense que nous n'avons pas été suivis et qu'il va passer au tribunal avec discernement altéré. Puisque la chambre de l'instruction a été sensible aux arguments de... Il a été quand même suffisamment malin pour donner des réponses sensées. Bon. Voilà pour cette question. Alors, un paranoïaque altéré, je vous la fais brève. Donc, paranoïa non délirante, mais personnalité paranoïaque cognée. Hein. Moult conflits, moult bagarres, sensitivité, projection, on m'en veut, on me regarde de travers, etc., etc. Histoire classique de voiture, pompe à essence, il se met à la première pompe à essence, un taxi arrive derrière et lui dit bah, « avancez à la première, moi je me mets à la seconde » et comme ça, il refuse, donc altercation, et ça va se terminer à coup de barre de fer, à coup de couteau, et donc voilà, il y a voilà, et jugement et tout. Et ben, ben là, par exemple, voilà nos conclusions. Oui, depuis cette époque et de façon assez permanente, M. M ressent autour de lui un sentiment d'hostilité, ce qui augmente sa méfiance, sa sensibilité. Son jugement a pu être à plusieurs reprises faussé par les mécanismes interprétatifs déjà évoqués, qui l'amènent à considérer certains événements extérieurs comme ayant un lien avec lui. Et comme s'inscrivant dans un contexte de persécution, nous sommes ici dans ce que l'on peut considérer comme une personnalité paranoïaque, sans pour autant atteindre les troubles paranoïaques délirants décompensés. Ah non, on est dans une clinique. Oui, on est dans une clinique un petit peu compliquée, mais c'est quand même ça. On est quand même là. Donc, cette sensibilité exacerbée et sa réactivité ont pu influencer son comportement lors des faits, d'autant qu'il semble, si l'on suit les témoignages, avoir été effectivement victime de l'agressivité du chauffeur de taxi. Donc, parce que les témoins disent, bah oui, mais le chauffeur de taxi, il a poussé aussi. Donc, il y a un paranoïaque et un chauffeur de taxi qui l'a abandonné.
Mais quand on expertise un paranoïaque, on est obligé d'aller vérifier tous les trucs. Hein, parce qu'il y a un truc en réseau.
Il y a toujours une.
Hein, il vous force à aller vérifier.
Alors voilà. Nous ne retiendrons donc pas ici l'abolition du discernement, mais proposerons de considérer que le discernement de M. Michel Mongry, peu importe, vous ne le connaîtrez pas, c'est pas son vrai nom d'ailleurs, était altéré. Alors, bon, une irresponsabilité évidente, donc un jeune homme va voir sa grand-mère, il n'a jamais... Il n'est pas connu en psychiatrie, il n'a jamais... Dans l'enfance, il a consulté une ou deux fois un centre psychologique pour des troubles orthographiques ou autres. Mais enfin, on n'arrive pas. Mais ça, on ne sait jamais, en fait. Hein, on ne sait jamais. Mais on n'arrive pas à retrouver des soins. Il n'a jamais été hospitalisé, jamais vu de psychologue, jamais vu de psychiatre, etc., etc., etc. Bon, donc ce jour-là, il va... il prend des toxiques, il fume du cannabis, mais ce n'est pas non plus un... voilà, ce n'est pas... Donc, il va en famille... Il va au cimetière où se trouvent les tombes de la famille, et là, brusquement, les tombes lui parlent. Les tombes lui parlent, et elles lui disent que sa grand-mère, qu'il aime beaucoup, hein, est bien vieille, et qu'il faudrait peut-être la supprimer, que ça serait lui rendre un service.
Oui, c'est ça, oui.
Il rentre donc à la maison, manifestation hallucinatoire s'amplifie, ce qui bien qu'il va tuer sa grand-mère, quinzaine de coups de couteau. Alors ça, c'est l'acte, la fameuse monomanie homicide, hein, 15 coups de couteau, et il va la violer avec son bras et arracher. Donc il va aller jusqu'au fond du vagin et arracher, et quand on lui demande pourquoi, il dit « je voulais la débrancher ». Alors, crime absolument épouvantable, manifestation psychotique aiguë évidente. On sait que, parce que c'est toujours pareil, quand on a un petit peu de temps ou la chance de tomber sur quelque chose, 3 ans après, il a donné aussi, parce qu'on le sait, parce qu'il y avait un rapport de police Il avait donné une quinzaine de coups de couteau à sa chienne, qui aussi, de façon télépathique, lui avait dit qu'elle était bien vieille et qu'il faudrait lui abréger la vie. Voilà. Donc, là, c'est quand même un problème, parce qu'il faut argumenter la maladie mentale, qui est évidente. Alors après, ça a été ça le premier acte homicide initiateur de la pathologie schizophrénique, hein, comme ces crimes qu'on voit...
Ouais, ça inaugure une série.
Voilà, ça inaugure la maladie. Voilà. Et donc, là, abolition, évidemment, de la, du discernement. Écoutez, je crois que peut-être on va laisser la place à la discussion. Oui, il y a peut-être celle-là, oui, voilà, c'est la dernière, et donc, que j'ai faite avec Frédéric Rouillon et Paul Bensoussor. C'est un jeune homme, alors pas d'antécédent psychiatrique, mais on sait par la famille que depuis plusieurs mois, il ne va pas bien. Il s'enferme, il reste dans sa chambre, il devient assez coléreux. Il a tenu des propos à ses parents qui n'ont pas compris. Il parlait de sosie, donc on sait qu'il pense que ses parents sont des sosies ou que ses vrais parents ont été enlevés. Il rumine de tuer ses parents, mais il a des doutes. Il se demande quand même si c'était vraiment mes parents. Donc il est dans cette phase d'anxiété paroxystique, d'émergence délirante. Il part, il prend le train, il part à Marseille. Et là, je vous la fais brève aussi, mais il va commettre dans le train des agressions. Les gendarmes vont le chercher dans le train. On va l'amener à l'hôpital de Valence, où aux urgences, il est vu, mais bon, on dit, je ne sais pas pourquoi, il faut le calmer, etc. Il s'enfuit, il reprend, il vole une voiture, et là, il va commettre deux meurtres. Donc, il rentre dans des maisons, et il tue les femmes, pas les hommes, il tue les femmes. 30, 40 coups de couteau à chaque fois. Donc, c'est de l'acharnement. Il est attrapé, et on le voit donc... à Paul Guiraud, à l'UMD de Paul Guiraud, il va bien. Il est traité. Non, il est traité, c'est pas ça le problème. Hein. C'est qu'il est traité. Il est traité. Il est très critique par rapport à ses actes. Hein. Il dit que j'ai fait horrible. C'était pas moi. C'était plus fort que moi. Je ne sais pas comment j'ai pu faire ça. Ça ne me ressemble pas, etc. etc., etc. Donc il va mieux, ça c'est une chose, mais enfin, il y a eu quand même un abominable crime. Sa famille vient le voir. Donc une abolition sans problème, avec bien sûr nécessité de soins. Au total, on peut estimer que M. S. n'avait donc pas une santé mentale harmonieuse lorsque, peu avant Noël 2016, non, là on fait référence au fait que, si on regarde bien, il n'y a pas de soins psychiatriques, mais il ne va pas bien. Parce que le fait de dire à quelqu'un « Est-ce que vous avez déjà vu un psychiatre, une psychologue, etc. ?» et le fait qu'il dise non, ne veut pas dire qu'il va bien. Donc il faut explorer un petit peu les choses. peu avant Noël 2016... Son état psychotique aigu... Oui, donc avant que l'état psychotique aigu débute, il y avait donc des problèmes. On peut au minimum retenir qu'il avait des relations souvent conflictuelles avec les autres, était très réactif et sensible à la frustration, et avait une tendance projective, mécanisme de défense psychotique. Alors, on l'explique parce qu'au juge, si on est projectif, il faut expliquer un petit peu ce qu'on veut dire, qui le conduisait à incriminer la responsabilité d'autrui pour expliquer les difficultés auxquelles il était confronté. Il était l'auteur de nombreux comportements antisociaux, vivait une désinsertion sociale en dépit des nombreuses aides reçues par les différents services sociaux intervenus, entre autres, après sa détention. Peut-être il avait été détenu une fois pour un délit mineur. Peut-être souffrait-il même déjà en 2015 d'idées délirantes aussi symptomatiques. Alors à un moment il dit, à cette époque-là, un ange tournait dans ma tête. C'est tout ce qu'il peut en dire. Quel ange, pourquoi, comment, c'est tourné avec l'ange. Ou des sensations de transformation corporelle à propos du ventre qui gonfle. Vous voyez, il faut aller chercher les éléments symptomatiques, il faut aller vraiment les... Il n'y a pas grand-chose. Hein. Et puis, la discussion, dans les bouffées délirantes, le délire est généralement associé à une note d'exaltation thymique que l'on retrouve chez M. S. avec un sentiment messianique de toute puissance, obnubilation de la conscience sans réelle confusion mentale, état psychotique réalisant, bon, bah, voilà, donc là, il y a de la clinique, là, c'est l'abolition, il n'y a pas donc de discussion. Voilà, donc, voilà, on a vu, le schizophrène responsable, mais discernement altéré parce qu'il participe à un braquage très efficace, mais pas infiltré de schizophrénie.
Sans inhibition.
Hein, voilà, sans inhibition. Voilà. Non, mais tu as raison, parce que c'est ça qu'on peut dire, mais on peut dire, bien sûr qu'il est efficace, mais peut-être qu'il n'aurait pas fait ça. Oui. S'il n'avait pas été schizophrène, il aurait peut-être eu une inhibition, mais voilà. Donc, puis on a vu altération, abolition, et on a vu aussi abolition sans problème, donc sur des zones qui sont un peu compliquées. Alors, je vais, semble-t-il, trouver ma dernière page. Alors, voilà, elle avait sauté. Voilà, en résumé. Alors, nous avons vu la permanence depuis l'Antiquité de l'irresponsabilité pénale des aliénés au moment des faits, avec des positions variant dans le temps, quant au caractère présumé déshumanisant et suraliénant de l'irresponsabilisation, on l'a vu. Nous avons noté la permanence depuis 1810 des mêmes questions liées à l'état de démence et à l'abolition du discernement. Et je rappelle là, même ce que j'ai dit, qu'en 2014, il faut codifier l'altération, sinon les malheureux sont surpunis en tant que malades mentaux. La France est, selon les statistiques du pays de la Communauté européenne, où le nombre de malades mentaux détenus est, et de loin, le plus important. L'application de l'alinéa 1 de l'article 122.1, c'est l'abolition, est encore considérée comme une façon de contourner la peine, et ce, même devant la chambre de l'instruction. Et enfin, il se pose, bien sûr, la question en filigrane, la question quasi-métaphysique du libre-arbitre. Après, évidemment, on peut rentrer dans une discussion de qu'est-ce que c'est qu'au fond, que le plein discernement, et qu'est-ce que c'est que le libre... Voilà, y a-t-il réellement un libre-arbitre dans toute cette affaire? Mais là, je crois que c'est ni le juge, ni le psychiatre, c'est peut-être le philosophe, ou je ne sais pas, qui peut répondre à cette question. Et c'est une autre histoire. Voilà, je vous remercie de votre attention.